Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle réalisée par sur Fréquence Protestante par l'association Profil. L'association Profil dont le titre signifie Protestant Film ou Film et qui a pour centre d'intérêt le cinéma et qui est d'origine une inspiration protestante. Cette émission sera présentée par moi-même, Jean Lot, et animée par Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Par Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Par Jean-Michel Duquerre. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Bon, l'objectif de cette émission, c'est bien sûr de présenter les quelques films les plus importants du mois et d'en débattre. Cette fois-ci, nous avons choisi trois films d'origine et de contenu très différents, même si certains points les rapprochent, on en parlera peut-être. On va ainsi parler successivement du dernier film de François Ozon, Dans la maison. Puis on fera un tour en Corée du Sud avec le film de Aung San Suu, In Another Country. Et on reviendra ensuite vers la France avec Michael Haneke et son film Amour. Et ensuite, on complétera ça par quelques coups de cœur. Mais commençons-nous tout de suite avec Dans la maison de François Ozon. Enfin, je dois dire que pour moi, ce film, c'est une bonne surprise. Depuis Swimming Pool en 2003... que j'avais adoré, j'avais été assez déçu par les films suivants de François Ozon, que ce soit Le Temps qui reste, Angèle ou même Potiche. Et là, j'ai l'impression qu'il retrouve c'est un autre niveau, ce film. Moi, j'étais ébloui par cette espèce de miroir aux alouettes de ce film qui ne fait que de reflets qui captent le spectateur et le mettre en situation d'être incapable de séparer le réel de l'imaginaire. D'ailleurs, dans l'histoire de ce Claude, élève de seconde, qui écrit pour son professeur de français des rédactions se terminant par les mots « à suivre » et qui raconte ce qu'il a vu ou qu'il est supposé avoir vu dans la maison de Rafa, son meilleur ami, on retrouve un peu la subtilité de Swimming Pool qui est déjà reposée sur le travail de la création et le passage de la création au réel. Mais je trouve que ça va beaucoup plus loin dans la maison que ça l'était dans Swimming Pool. Alors Jacques, est-ce que tu as éprouvé le même plaisir que moi à être ainsi en permanence dans une sorte de palais des glaces ?
Oui, j'ai éprouvé ce même plaisir. En fait, le nouveau film de François Ozon est comédie subtile, un film à la fois drôle et assez troublant. Donc, comme tu l'as dit, il met en scène un professeur de français et son élève. Ce professeur de français, Germain, qui est un peu désabusé, frustré de n'avoir pas écrit, d'avoir pas été l'écrivain qu'il rêvait. Et le film commence finalement à l'occasion d'une balade rédaction sur votre dernier week-end. Et Germain reçoit de Claude, donc son élève, un récit bien écrit, un peu étrange, sur la famille d'un de ses copains de classe, Rafa, et qui se termine, comme tu l'as dit, par cette « à suivre ». Alors Germain est séduit par le style, intrigué par l'histoire, il va encourager Claude à poursuivre, et Claude, pour écrire, va s'immiscer dans la famille de Rafa. Une mère au foyer qui ne rêve que de décoration et un père commercial qui ne parle que de faire des affaires en Chine. Le feuilleton de Claude va être donc le récit de ses expériences dans cette famille. Et Claude en livrera un nouveau chapitre presque tous les jours et Germain va peu à peu devenir accro à ce récit. Mais comme tu l'as dit, où s'arrête la réalité et où commence la fiction ? Au début c'est assez simple parce que Germain lit la première rédaction. Mais au fil des chapitres, on accède directement aux images et la voix off se fait de plus en plus rare. Ce qui fait que le spectateur ne peut plus distinguer ce qui est réel et ce qui a été imaginé. Et par exemple, la désagrégation de cette famille, au début normale, par ce bel ange blond à la manière un peu de théorème de Pasolini, est-elle réelle ou imaginée ? Et qui manipule qui ? Est-ce que c'est Germain qui pousse Claude à écrire et qui lui donne des conseils pour réussir finalement dans la littérature, qui l'oriente dans certaines directions, et qui ainsi dirige l'action ? Ou bien est-ce que c'est plutôt Claude qui manipule ? Parce que c'est lui qui appâte par son premier récit et ceux à suivre. Et Germain se trouve peu à peu accoutumé à sa livraison journalière, un peu comme une drogue, au point d'oublier ses devoirs de professeur et d'époux. Donc c'est un film sur la création littéraire, et donc cinématographique, comment faire une œuvre, comment intéresser le lecteur, le spectateur à cette famille banale. Il se passe quasiment rien dans cette famille, mais son histoire devient captivante pour Germain et pour le spectateur, simplement par l'imagination de l'auteur et par la qualité du style. Donc on a manipulation du lecteur par l'écrivain et manipulation du spectateur par le réalisateur. Et cette manipulation créatrice est magnifiquement démontée, je trouve, par la scène finale, qui est une réminiscence de Fenêtre sur cour. Germain et Claude sont assis le soir sur un banc face à un grand immeuble où on voit des dizaines de familles vivre dans leurs appartements qui sont des boîtes éclairées. Et tour à tour, Germain et Claude construisent des romans sur des scènes banales qu'ils voient par les fenêtres. C'est une très belle mise en scène du romancier ou du cinéaste en train de créer.
Tout à fait. François, tu as des commentaires à faire sur ce que je viens de dire, Jacques, et ta réaction personnelle au film?
Alors moi, j'ai trouvé le film intelligent, subtil, troublant. J'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'a intéressé dans le film, plus que la manipulation, qui en effet un aspect très important, c'est l'aspect c'est quoi la création artistique? Comment transformer la réalité en écriture? Quel est le lien entre la réalité que l'on vit et la fiction qu'on en extrait? Et comment transformer des êtres minables en êtres extraordinaires? Vraiment, c'est au niveau de la création artistique que j'ai été saisie par le film.
Oui, moi aussi, ça me semble vraiment l'aspect intéressant de ce film. Et toi, Jean-Michel, quel est ton...
Oui, moi, je serais plus réservé. Ce film est très, très brillant. C'est un exercice très brillant. C'est très littéraire. Et on voit jusqu'où ça peut mener dans sa conclusion, comme la... il y a fait allusion Jacques, c'est le travail d'un Pygmalion. Il y a de la manipulation des deux côtés. Je pense que c'est surtout l'élève qui est manipulateur. Et ma réserve vient du fait que, sous l'angle des identifications, je suis reste un peu sur la berge parce que je trouve que c'est un film extrêmement froid et qui personnellement ne m'intéresse pas aux personnages, aux deux personnages principaux. Que sont ces deux êtres manipulés. Je trouve particulièrement antipathique le jeune Claude, et tout ceci me semble un exercice très brillant, encore une fois, mais un peu vain, et dans lequel je ne peux pas bien rentrer.
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'exercices intellectuels dans ce film, c'est incontestable. C'est à la fois sa limite et ce qui en fait sa valeur. Il y a une façon de repousser la différence entre réel et imaginaire, toujours plus loin, et de manière graduelle, qui est tout à fait intéressante. Mais effectivement, toute identification est quand même difficile.
Non, moi je trouve que c'était vraiment un film qui pose des problèmes intéressants dont on a envie de discuter. Bon.
Non, mais c'est un film assez unique, je trouve, quand même, dans sa... dans sa volonté, dans son parcours. Et je pense que beaucoup de gens le lisent de manière au premier degré. Je trouve que c'est un grand tort, parce que ce n'est pas du tout là que va aller Ozon. Ozon, il va en plein dans l'imaginaire.
Et tout est faux, les décors sont faux, tout est fabriqué. C'est un monde étrange dans lequel on...
Oui, ce qui m'aurait intéressé, c'était la relation entre un professeur et son élève. Ça a été décrit souvent. Je pense à un film de Brissot, là, dont le nom m'échappe à l'instant même, où l'élève était une jeune fille et où le travail relationnel est beaucoup plus, à mon sens, plus fort. Mais effectivement, la création littéraire est abordée dans ce film.
Ouais. Tout à fait. De toute manière, bon, c'est un film, je pense qu'il faut aller le voir, ne serait-ce que pour le rejeter. Donc, on va passer au film suivant, qui est Another Country de Aung San Suu. Bon, alors, il y a une certaine parenté entre ces deux films, quand même, hein, parce que l'un comme l'autre nous met face à la nature de la fiction et de la création. Hein. Mais alors que dans François Ozon, la frontière entre réel et fiction était indiscernable, pratiquement, là, la séparation est plus tranchée. On a quelqu'un qui, une jeune fille, qui dans un hôtel imagine trois scénarios successifs, et on a droit à ces trois scénarios successifs. Bon, ça c'est le principe du film. Maintenant, pour parler rapidement quelque chose de Aung San Suu, il semble que ce soit dans Turning Gate, dans La femme et l'avenir de l'homme, et dans Contes de cinéma, une des caractéristiques de son cinéma, c'était de reposer sur une structure en miroir, et d'avoir une seconde partie du film venant rejouer en quelque sorte de manière différente la première et du coup prenant un autre relief. Je dirais d'une certaine façon, avec Aung San Suu, on passe de la mono à la stéréo. Alors est-ce que on retrouve ça encore dans ce In Another Country, Jean-Michel?
Oui, je crois qu'on retrouve ça, ce travail en miroir et cette récurrence de la narration. Moi j'ai été absolument passionné, amusé, par ce film qui est d'une subtilité extraordinaire. Comme tu l'as dit, ce sont trois scénarios qui ne sont pas véritablement juxtaposés, certes qui sont successifs, mais qui font intervenir les trois propositions narratives de cette jeune fille, qui les expose en apportant des variations à la courte aventure d'une Française qui est interprétée par Isabelle Huppert au pays des hommes coréens. Voilà, je dirais une Française chez les Coréens. Elle est tout d'abord dans la première séquence cinéaste, puis elle devient une bourgeoise abandonnée par son mari pour une femme coréenne, du reste. Et enfin, dans la troisième séquence, elle est accompagnante d'une coréenne de la bonne société. Et chacune de ces séquences possède en commun avec les deux autres les mêmes acteurs, dans des rôles analogues sinon identiques, qui prononcent avec de minimes variations de texte et de situation, et dans les mêmes situations, les mêmes mots. La jeune femme française est notamment, et c'est l'aspect sentimental du film, draguée de façon insistante par les quelques hommes qui la rencontrent et admirent sa beauté exotique, avec beaucoup d'insistance, et elle y répond avec beaucoup de politesse, et elle en est flattée. Il y a parmi ces hommes l'hôte qui l'héberge, qui est affligée d'une femme enceinte jusqu'aux dents, qui est en même temps terriblement jalouse de son mari. Il y a un maître nageur hurluberlu qui est collant et très fier de lui et qui poursuit la Française. Et enfin, il y a un cinéaste possessif qui semble avoir avec Elisabeth Huppert une histoire plus ancienne et qu'on retrouve dans la séquence qui lui est dédiée. En réalité, c'est la même histoire avec des points de vue différents, et ces histoires permettent une espèce d'errance sentimentale, un badinage un peu romérien, mais avec une telle absence d'apesantissement, une telle légèreté, qu'on est convaincu par cette démarche ludique du réalisateur, démarche ludique aussi des personnages eux-mêmes, qui ne cherchent pas à apporter un sens à toute cette histoire, mais qui, malgré cette légèreté, nous permettent de percevoir une philosophie de vie, un relativisme qui est en fait avivé par le choc des cultures, parce qu'on est là devant une Française qui découvre les Coréens, et les Coréens qui découvrent cette Française, qui elle-même est comme une Martienne sur le sol coréen. Tout peut dérouter le spectateur occidental, et ce film n'aura peut-être pas le succès qu'il mérite, et il faut entrer dans un film d'Aung San Suu, c'est certain, mais les désirs et les illusions des personnages provoquent des lambeaux de rêves éveillés qui sont suivis par le corrigé de la réalité. Moi, je trouve ce film absolument jubilatoire.
Est-ce que la jubilation est partagée?
Oui, mais j'aime beaucoup Aung San Suu. Alors c'est un codicille qu'il faut tout de suite je donne, parce que on peut trouver les variations d'Aung San Suu sur ces différents thèmes mortellement ennuyeuses. Moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle variation, cette petite musique rafraîchissante sur ces thèmes, et notamment sur le thème de la communication, puisque en fait par rapport à ces films classiques qui se passent entièrement entre Coréens, il y a ici une nouveauté qui est apportée par cette étrangère, par cette française, et qui, je dirais, démultiplie les difficultés de communication par la difficulté de la langue, cet anglais mal maîtrisé. Bon, il y a notamment dans des répliques « I love you », ben cet « I love you », il est très vague, il veut dire des tas de choses. Donc, on a les thèmes d'Aung San Suu revisités par cette construction un peu différente. Et puis alors, effectivement, il y a cette construction en miroir sur ces trois sketchs, qui est absolument délicieuse, passionnante, subtile, et qu'on aime beaucoup si on aime Aung San Suu.
Françoise, tu partages cette...
Oui, moi je rejoins tout à fait Jacques. Tout à fait Jacques, j'ai vu ce film comme on boit une coupe de champagne. J'ai aimé le badinage, j'ai aimé la légèreté et les couleurs qui vont avec. La légèreté, elle est orange, et puis le spleen, parce qu'il y a du spleen aussi. Il est bleu, il est bleu-gris. J'ai adoré les couleurs. J'ai adoré aussi les langues, passer du coréen à l'anglais et au français. Chaque langue a son propre univers, sa couleur, et j'avais l'impression de voyager d'une langue à l'autre. Ça m'a fait un grand plaisir. J'ai aimé également toutes ces possibilités narratives qui se recouvrent, j'ai joué avec le film. J'ai eu beaucoup de plaisir à le voir.
C'est vrai qu'il y a un côté un peu film-jeu. On a un peu l'impression de se trouver avec trois trames qui sont suffisamment transparentes pour qu'on puisse voir à travers, et on le retrouve des points de repère. Il y en a qui changent, il y en a qui ne changent pas, il y en a de nouveaux qui sont introduits, et on tisse des lignes entre ces différents points de repère. Et non seulement il y a cette espèce d'histoire d'espace à deux dimensions, mais en fait c'est même une troisième, parce qu'on passe de l'une à l'autre par moment. Par exemple, lorsque Isabelle Huppert oublie un parapluie dans sa première histoire et le récupère à la fin, comme si toutes les histoires étaient reliées. Tout ça, ça ne fait qu'ajouter au plaisir de ce film.
Ou comme le phare que l'on cherche toujours et qu'on ne voit jamais sauf en rêve.
Bien, ben on va passer maintenant au dernier film, qui, au moins sur le papier, est le plus important des trois, puisqu'il a remporté la palme à Cannes, avec, et cette fois une palme qui n'a été contestée par personne. Bon, disons que le film Amour de Michael Haneke est un film noir, lourd, inconfortable, dérangeant, qui met en scène un couple âgé aimant, joué par deux acteurs extraordinaires, Jean-Louis Trintignant et Manuel Riva. Dans ce couple âgé de plus de 80 ans, la femme Anne est atteinte d'un AVC. Commence alors une irréversible et inéluctable descente vers la mort. C'est le sujet du film, c'est le genre de film qui, par son sujet comme par son traitement, ne laisse pas indifférent. On y adhère ou on le rejette en bloc. Mais il faut dire qu'Haneke est un cinéaste qui a toujours dérangé. Il a aussi longtemps été considéré, il a aussi été considéré comme un grand cinéaste, et d'après Jean-Louis Trintignant, ce serait même le plus grand des cinéastes vivants. Mais alors maintenant, est-ce qu'il faut voir ce film? C'est une question qui se pose. Françoise, toi qui l'as vu, qui l'as même revu, qu'est-ce que tu en dis?
Ce que j'en dis, je dis que ce n'est pas un film comme les autres, c'est un film à part, qu'on n'est pas obligé d'aller le voir, pas du tout, que c'est personnel. Mais je dis aussi que moi, je ne voudrais pas ne pas l'avoir vu. À mes yeux, c'est un très grand film. Hommage à Michael Haneke, hommage à Emmanuel Riva, à Trintignant, bien sûr, qui nous subjugue par son talent, par son charme, par sa voix depuis déjà des décennies. Mais comme tu dis, le film est dérangeant. Dérangeant parce qu'il nous oblige à garder les yeux ouverts sur ce qu'on n'a pas du tout envie de voir, la mort. Notre amour confronté à la mort. Et parce que la mort, eh bien, ça fait peur. C'est difficile, je trouve, de parler de ce film-là parce qu'il étreint, il bouleverse. Il nous interpelle au plus profond de nous-mêmes et bien sûr sans attendre notre consentement. C'est un film qui touche à ce qu'il y a de plus fragile en nous, à savoir le mystère de la mort et plus particulièrement la mort de l'autre que l'on aime. Et la question est brutale. Que devient ce lien d'amour quand la maladie inéluctable détruit lentement, sous vos yeux, cet autre que vous aimez ? C'est peut-être pour tenter d'y répondre que la caméra s'approche au plus près des visages, des regards, celui d'Anne, celui de Georges, au plus près de la peau. C'est sans doute ainsi que Haneke filme l'âme d'un homme, d'une femme, confrontée à cette douleur-là. Mais voilà que dans ce film, douleur rime avec douceur. Comme dans le troisième impromptu de Schubert, qui accompagne tout au long Anne et Georges. Et Georges, alors, invente les gestes et les mots qui vont organiser la résistance. Pour moi, c'est là que réside la force du film et sa beauté, surtout. Alors non, je n'y vois pas un film noir, je vois plutôt un film d'amour, mais un film douloureux, oui, oui, et sans conteste. Rassurons-nous, il n'y a jamais de larmes. Chez Haneke, la sobriété de rigueur, aucun voyeurisme, même si nous, spectateurs, nous sommes tenus de garder les yeux grands ouverts. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que les images de ce film continuent de nous habiter longtemps après que l'écran ait éteint. C'est un film qui n'apporte aucune réponse. Haneke choisit, comme toujours, de laisser les zones d'ombre, et en particulier, que devient Georges, après. Mais aussi, c'est quoi cette effraction ? Que constate cette curieuse effraction que constatent Georges et Anne en rentrant dans leur appartement le soir, la veille du drame? C'est quoi ce pigeon qu'on voit par deux fois? C'est quoi cette question deux fois réitérée? Y a quelqu'un? On n'aura pas la réponse.
Merci Françoise. D'autres réactions à ce film assez extraordinaire de certaine façon? Jacques?
Ben pour moi, c'est un film qui est superbe au plan cinématographique. Les acteurs sont excellents. Les longs plans séquences apportent une présence très très forte. Les cadrages sont parfaits. Donc je dirais, le film mérite sa palme. Et en plus, la froideur du film évite de tomber trop dans le pathos, dans l'émotion. Par contre, j'ai quand même une question sur ce film, mais qui est un peu sous-jacente, je crois, à nous tous, c'est fallait-il faire un film sur ce sujet, ou dit autrement, est-ce que ce film apporte quelque chose, finalement, par rapport sur un sujet qui est malheureusement connu par beaucoup de familles? Et comme le dit d'ailleurs lui-même Jean-Louis Trintignant dans le film, il dit à un moment, tout cela ne mérite pas d'être montré. Donc la vraie question pour moi, c'est, encore une fois, ce film est d'une beauté extraordinaire. Tout cela faut-il d'être montré?
C'est une vraie question.
Ça, c'est une vraie question.
C'est une vraie question,
moi, si
donc une question qui n'a pas de réponse.
Oui.
Mais elle n'a pas de réponse parce qu'en fait, bon, une œuvre d'art, c'est pas fait dans un but. Hein. C'était la volonté de Haneke de faire ce film.
Exactement.
Mais nous pouvons nous poser cette question.
Oui, pour moi, enfin, justement, à propos de l'œuvre d'art, moi, ce qui me gêne vraiment dans ce film, c'est que pour moi, la définition même de l'œuvre d'art, enfin, le but, l'objectif de l'œuvre d'art, c'est de se poser à la mort. C'est la façon qu'a l'humain de se poser à la mort. Et de faire que l'homme devienne plus grand que la mort. Or là, Haneke nous enfonce dans la mort.
Mais
c'est ça qui me gêne.
Mais non, et la dernière séquence, alors, comment vous l'interprétez,
Jean-Michel?
Oui, moi je pense que tout ne doit pas être... Enfin, c'est quelque chose qui, dit Trintignant, ne doit pas être montré, mais que Haneke montre cependant. Donc il a son idée, et je pense que sortir du non-dit... C'est important, et ce qui est important aussi, c'est que c'est peut-être la première fois qu'à l'écran, on voit comment peut se déployer, se redéployer l'amour dans un couple profondément uni lorsque survient l'adversité, lorsque survient la déchéance, la dégradation physique. Et ça, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qu'on connaît, mais l'avoir montré dans des images, avoir montré quelle est l'empathie de ce couple qui a vécu toute une vie ensemble et qui se trouve maintenant confronté à des contradictions épouvantables qui vont déboucher sur ce geste terrible de la fin, dont on ne sait pas, dont personne ne peut dire si c'est un geste d'amour absolu ou un geste de désespoir et un passage à l'acte non maîtrisé. Je trouve que ça, on atteint des sommets que seul le cinéma peut montrer et qui entretiennent longuement l'obsession et la discussion au-delà de ce film. Et je pense que c'est un film qu'on peut aussi mettre parmi ceux qui sont utiles et qui est extrêmement original dans ce sens.
Oui, enfin, je suis d'accord sur ton analyse, mais pas sur ta conclusion. Mais enfin, c'est un autre sujet. Bon, écoute, je pense qu'on va passer maintenant au coup de cœur. Je crois que l'un comme l'autre, Jacques comme Jean-Michel, vous avez un coup de cœur à présenter. Eh bien, Jacques commence, puisque Jean-Michel vient de parler.
Alors, moi, mon coup de cœur serait le dernier film des frères Taviani, qui a reçu l'Ours d'Or à Berlin en 2012, et qui donc s'appelle « César doit mourir ». Donc, c'est un film très court, 1h15 à peu près, un peu intermédiaire entre le documentaire et la fiction, qui montre des détenus jouer Jules César, mais des détenus qui sont condamnés à des peines lourdes, hein, d'ailleurs, qui a joué Jules César dans une prison italienne. C'est très beau, c'est un film où les plans sont magnifiques, où la force des acteurs qui sont pas des professionnels et superbe, et avec des images assez très fortes. On se souvient comme par exemple ces détenus qui crient Libertà, Libertà, qui c'est un texte de Shakespeare puisque c'est un film, c'est une pièce sur la liberté qui est évidemment assez étonnante, quoi. Donc un beau petit film à voir.
D'accord, merci Jacques. Jean-Michel, toi tu parles de quelque chose de tout à fait différent.
Oui, tout à fait différent, bien que j'adhère complètement au coup de cœur de Jacques par ailleurs. Je parle du film d'un centenaire qui n'a pas fini de nous étonner. Il s'agit bien sûr de Manuel de Oliveira, qui, d'après l'œuvre d'un grand écrivain portugais, nous propose « J'ai beau et l'ombre ». L'ombre, c'est celle de son fils qui est quelqu'un qui va apporter le trouble dans cette famille. Il s'agit de 6 personnages absolument magnifiques qui ne restent pas longtemps en quête de leurs spectateurs, car parmi eux, Jeanne Moreau et Claudia Cardinal, et puis 4 Portugais de très haut niveau, Leonor Silveira, Ricardo Trepa, Luis Miguel Sintra. Et ces personnages sont impliqués dans une histoire absolument terne lorsqu'on la décline ainsi. C'est l'histoire d'un comptable qui vit dans sa famille, et qui travaille au-delà du temps voulu parce qu'il a besoin de la faire vivre. Ce comptable et tout le film est créé et photographié à l'intérieur d'une chambre, d'une seule pièce à vivre, et le fils va, sorte de Raskolnikov portugais, va mettre le trouble dans cette famille qui est tout à fait qui vit en vase clos, et il faut voir ce film qui est décidément encore un chef-d'œuvre d'Oliveira.
Merci Jean-Michel. Eh bien, il me semble que le temps est venu que nous rendions l'antenne maintenant. Merci à Françoise, merci à Jean-Michel, merci à Jacques qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté et à qui nous disons à bientôt, au mois prochain. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 23 novembre pour parler des nouveaux films sortis ce mois-là.